Bon, on va parler bien sûr de l'arrestation hier matin et de la mise en accusation du député de Rimouski, Harold Lebel, qui est accusé d'agression sexuelle.
Ouais. Pas besoin de vous dire que cette arrestation-là a eu l'effet d'une bombe, pas juste chez les députés du Parti québécois, je dirais chez tous les députés de l'Assemblée nationale, tout parti confondu, Paul, parce que Harold Lebel est un député apprécié, un député estimé. Ça a été dit là, dans plusieurs rapports de presse, là, mais je le souligne. Là, il a été désigné par ses pairs, par les autres députés, meilleur député de circonscription et député avec le plus bel esprit sportif, donc qui collabore, qui est gentil, respectueux avec les autres collègues, peu importe la formation politique. C'est dans le cadre d'un sondage mené par la presse qu'il a reçu donc ses honneurs. Sauf que là, depuis hier, il est accusé d'agression sexuelle, puis bon, il va devoir comparaître au mois de janvier. Moi, je ne dirai rien qui puisse nous permettre d'identifier la victime présumée, parce qu'il y a une ordonnance de non-publication, mais là-dessus, je vais dire deux choses, Paul. D'abord, nos pensées accompagnent la victime présumée, celle qui a décidé de porter plainte. Je ne présume absolument pas de l'issue des procédures judiciaires, mais on le sait que ce n'est pas facile de porter plainte. On encourage les victimes à porter plainte. Elle a décidé de le faire, nos pensées l'accompagnent. Et puis l'importance de porter plainte et puis de dénoncer, ça a été rappelé hier par le comité transpartisan là, sur les violences sexuelles. Qui réunit des représentants de tous les partis. Ça, c'est la première chose pour la victime, on pense à elle. Deuxième chose, deuxième observation, je note à quel point cet enjeu de l'ordonnance de non-publication a été mal géré hier. Paul, le mandat d'arrestation a été obtenu par la Sûreté du Québec le 26 novembre 2020, il y a trois semaines de ça, et l'ordonnance de non-publication a été émise le même jour.
Non, mais t'es un peu là.
Ouais.
Tous les cas d'agression sexuelle, mm-hmm. tu ne peux pas identifier la victime. Jamais. Jamais, 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 jamais.
OK. Mais moi, ce que je te dis, c'est que sur le mandat, là.
Ouais.
L'ordonnance est écrite à la main par le juge, signée par le juge. OK?
Mais la question de base, pourquoi ça a pris trois semaines pour l'arrêter?
Ben, peut-être, mais veux-tu m'expliquer comment il se fait que lorsque les policiers ont décidé d'aller l'arrêter hier? Comment ça se fait qu'on ne s'est pas assuré par la voie d'un communiqué, par exemple, d'informer le public et en particulier les journalistes qu'il y avait ordonnance? Ça doit être publicisé, ça. Et je sais que ça a été discuté, Paul. Il a été question d'émettre un communiqué. Il a été question que la Sûreté du Québec émette un communiqué. Et mais finalement, ils ont décidé de ne pas le faire.
Okay.
Alors, pourquoi ils ont décidé de ne pas le faire? Ça, je me l'explique mal. S'il y a une affaire qu'on sait, Paul, moi, je suis pas un spécialiste des affaires judiciaires, mais s'il y a une affaire qu'on sait, c'est que si tu arrêtes un député, ça va se savoir. On s'entend-tu là-dessus?
Mais c'est clair.
T'sais?
Moi,
alors,
mon problème, là je peux pas partir de... Hier matin, je vois sur les réseaux sociaux là des noms circuler qui, en fait, des façons d'identifier la victime.
Ben oui.
OK? J'ai vu ça dans d'autres cas. Tu comprends? Je vais te donner un exemple, là, dans un procès. Dave Hilton, là, il a violé ses filles. OK? Mais on ne pouvait pas dire ça tant et aussi longtemps que les ordonnances n'étaient pas levées. Puis les gens m'écrivaient dans ce temps-là, où sont les parents des victimes? Dave Hilton est accusé, où sont les parents? Je ne pouvais pas leur dire, écoute...
C'est lui, oui.
C'est lui, c'est ses filles. T'sais, hier, là, j'ai même vu des gens qui ont de l'expérience pourtant aller pratiquement identifier la victime, tomber en bas de ma chaise.
Mais...
Tu ne vas jamais. Regarde le procès Roson. C'est la victime qui a dit « Je veux maintenant que c'est terminé, que mon nom soit rendu public. »
Ah d'accord, regarde, là, moi je
hier matin, on nous disait « Oui, il y a un homme de 58 ans qui a été arrêté. » Esprit, on va le savoir là, que cette personne-là... tu sais, un député, ça passe pas dans l'ombre. Là. Quelqu'un qui a une notoriété, ça passe pas dans l'ombre.
Alors, tu sais, ils ont fini. Le DPCP a fini par mettre sur son fil Twitter à 17h30 un rappel de ce que c'est qu'une ordonnance, puis ils ont émis le communiqué à 18h09. Fait que...
Ah, c'est pas fort.
C'est vraiment pas fort. Puis tu sais, je veux dire, Paul, la dernière fois qu'on a arrêté un député, la dernière fois là, que les policiers ont arrêté un député, on s'entend-tu que ça s'est pas trop bien passé? Là? Il me semble qu'on aurait dû apprendre un petit peu de l'expérience passée. Puis là, on arrête encore un député. Et puis, c'est pas la même chose. Mais l'ordonnance, Paul, elle vise à protéger la victime présumée. La victime présumée l'a demandé, l'ordonnance. Ben elle l'a demandé.
Mais elle vient avec. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as pas le droit, comme média, d'identifier quelqu'un qui est plaignant ou plaignante dans une affaire d'agression sexuelle.
Alors, comment ça se fait qu'on n'a pas pris les moyens de mieux la protéger?
Mais j'allais que des avocats, hier, ils doivent connaître le droit. Je peux pas croire. Des avocats qui identifient la victime. Il faut le faire, là. Si c'est vrai, là, faut le faire.
En tout cas, c'est vraiment pas fort. Cela étant dit, il y en a qui l'ont bien géré. Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, le chef du Parti québécois, a bien réagi. Il a réagi rapidement. Expulsion du caucus le temps que dureront les procédures judiciaires. Rappel du principe de tolérance zéro. Paul, on ne peut pas sous-estimer à quel point une affaire comme celle-là peut geler une équipe, peut geler un chef et son entourage. Là, t'sais. Et hier, j'ai trouvé que Paul Saint-Pierre Plamondon avait fait preuve de jugement et de sang-froid. Il est sorti rapidement. Il a dit, garde, Harold Lebel n'est plus dans le caucus. On verra pour la suite. Rappeler les principes qui sont importants. J'ai trouvé honnêtement que Paul Saint-Pierre Plamondon l'avait bien géré. Ne sous-estimez pas l'impact psychologique que cette affaire-là va avoir sur le caucus du Parti québécois. Ils ne sont plus que 8 maintenant. Rimouski, Paul, c'est un beau comté. C'est un des rares comtés là où tu peux dire que le Parti québécois a encore une base solide, un électorat fidèle. Harold Lebel l'avait remporté avec une bonne marge. Lebel était très présent dans son comté, très aimé dans son comté. Alors là, qu'est-ce qui va arriver pour la suite des choses? Est-ce que le procès va se tenir avant l'élection de 2022?
Bonne question.
Mot t'as dit de bonne question. T'sais? Alors là, ça... Puis, tu sais, je parle de l'impact psychologique. Vous devez savoir que Harold Lebel, c'était le complice de Pascal Bérubé. C'est vraiment son body. Ils font de la politique ensemble, ils sont voisins de comté. Par exemple, à Noël, là, ils devaient co-animer une émission sur une radio de leur coin pour prendre des appels des personnes seules, puis réconforter les gens. Puis, tu sais, ils travaillaient beaucoup, beaucoup ensemble, Harold Lebel et Pascal Bérubé. Là, Pascal vient de perdre son body. En tout cas, il vient de le perdre là à court terme. Là, il est plus là, qu'est-ce que tu veux? Fait que, puis j'ai pas besoin de vous dire à quel point Pascal Bérubé est un élément important du Parti québécois. Alors, il est très affecté. Tout le caucus est très affecté, évidemment, par ce qui s'est passé hier.
Bon, une autre annonce économique du gouvernement aujourd'hui.
Une belle histoire, une belle histoire. Je vous raconte ça vite. En 2012, t'as deux jeunes Québécois, Francis Davidson puis Martin Picard, qui décident de commencer à sous-louer leur appartement, puis éventuellement des appartements vacants, des appartements laissés vacants par des étudiants, mettons, l'été. Ils s'aperçoivent que ça va bien. C'est un peu le modèle de Uber au début. Bon. Mais là, les affaires vont de mieux en mieux, tellement qu'ils décident d'aller s'installer en Californie pour prendre leur envol. Aujourd'hui, nous expliquerons pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'était parce que c'était plus facile d'aller chercher du capital? Une start-up, des fois, c'est plus difficile de se financer. En tout cas, bref, ils s'en vont en Californie et là, l'affaire lève, mon ami. Ça s'appelle Sonder, Sonder.com. Et là, ce qu'ils ont fait au cours des dernières années, ils ont fait l'acquisition d'appartements un peu partout dans le monde, dans certaines des plus belles villes et dans les beaux...
Mais dans ce sens-là, tu veux dire, ils achètent les appartements?
Exactement.
Pas comme Airbnb, là, qui c'est juste une plateforme de transaction, là.
Bingo. Leur modèle a comme migré. Et là, c'est devenu une espèce de modèle mixte entre une chaîne hôtelière et Airbnb.
Okay.
Donc, ils louent des appartements, mais ils sont propriétaires des appartements. Et là, ils louent ça, ils achètent les appartements, comme par exemple à Montréal, si vous allez sur leur site Internet, vous allez voir, c'est des beaux appartements, pas mal haut de gamme, dans les beaux quartiers. Ils sont dans Griffintown, ils sont dans le Vieux-Montréal, ils sont sur le plateau. Et là, vous voyez, ils sont à Rome, ils sont dans toutes les belles villes du monde. Et là, donc, ils étaient en Californie. Legault, quand il est allé en mission là-bas, les a rencontrés. Et là, aujourd'hui, à matin, à 9h, ils vont annoncer qu'ils reviennent à Montréal pour ouvrir un centre de gestion de leur parc immobilier qui est en forte croissance. Fait qu'ils vont investir tout près de 200 millions. Investissement Québec leur prête 30 millions là-dessus. Mais quand même, ils vont créer 700 emplois, dont 100 en intelligence artificielle, des moyennes de 140 000 par année comme emploi. Fait que c'est une belle... Puis il y a deux des dirigeants qui reviennent s'installer à Montréal, dont Martin Picard, un des deux cofondateurs, il s'en vient s'installer à Montréal pour gérer cette expansion, si tu veux, de l'entreprise. Fait que c'est des bonnes nouvelles, Paul. Qu'est-ce que tu veux? 700 emplois, dont 100 en intelligence artificielle, des beaux... Fait que on va s'en réjouir. À 9h ce matin, donc, François Legault sera là, Pierre Fitzgibbon sera là et les dirigeants de l'entreprise Sonder.
Merci, monsieur.
Merci.
7h12.